au tabernacle et je fortement sur mon cœur, c'était parler de la beauté du Fils de Jésus. Et souvent, c'est vrai, c'est pas souvent qu'au niveau message, on parle de la personne de Jésus. Et j'aimerais vraiment vous présenter cette personne d'une façon, on va prendre un texte, mais le but de ça, c'est quoi? Dans Jean chapitre 4, verset 22, il est dit, c'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Et en fait, l'adoration, elle est nourrie par la connaissance. Et la connaissance du Fils nourrit l'adoration. Donc, je trouve que c'est vraiment capital comme sujet, parce que dans l'expérience que j'ai avec Dieu, marchant maintenant depuis 25 ans avec lui, 26 ans avec lui, j'ai vu des gens qui louaient Dieu, qui parlaient en langue, qui prophétisaient et qui ont lâché Jésus. Ça existe. Et je me dis toujours, mais quelle est la connaissance de Jésus qu'ils avaient? Quelle est l'expérience avec le Fils? Pas seulement une expérience émotionnelle, mais une connaissance des Écritures, de qui est ce Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, l'importance de le connaître. Apocalypse, et on va prendre ce texte de base, Apocalypse 1, versets 10 à 20. C'est Jean qui parle. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et la voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. » Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Juste, Jean était exilé à cause de son témoignage. Il était exilé sur l'île de Patmos. Ce n'est pas une prison, mais presque. Donc, il y a des situations d'exil parfois. Il y a des situations de prison où la révélation de Jésus est bien plus forte que toute autre situation de bonne santé, de bien-être, où tout va bien. La révélation de Jésus, les plus profondes révélations dans les Écritures, sont dans des moments d'exil, des moments de tiraillement, des moments d'épreuve. C'est les vallées de Baca dans lesquelles on passe, et c'est des vallées où il y a des sources de révélations que jamais on n'aurait pu voir avant. Donc, Jésus se révèle ici à Jean en tant que qui il est vraiment. C'est plus le Jésus simplement qui était sur la terre, le Jésus de grâce et d'amour, c'est le Jésus Seigneur et Roi qui se révèle à Jean. Et il se révèle dans sa majesté, dans sa beauté. Il y a un moment, les disciples de Jean, juste après la résurrection, ils n'avaient pas reconnu, ils ne savaient pas que Jésus était ressuscité, ils n'y croyaient pas encore. C'était les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus vient les voir et il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait dans les Écritures depuis le début à la fin. Et j'aimerais rappeler que toutes les Écritures, du premier verset de la Bible jusqu'au dernier, parlent de Jésus, Seigneur des Seigneurs, du début à la fin. Toute doctrine qui nous fait voir qu'on ne voit pas Jésus du début à la fin, ne nous permet pas de comprendre les Écritures. L'apôtre Paul dit, il y a un voile, il y a des ombres. L'Ancien Testament, c'est une ombre. Je ne veux pas passer ma vie à étudier les ombres. Dieu nous dit, nous avons une vie et une seule, et c'est pour voir la lumière. Et le Christ est celui dont il est le thème majeur des Écritures, du début à la fin. Du début à la fin. Et il est celui, le seul, qui interprète les Écritures. On ne peut pas comprendre la Bible sans le Christ vivant dans notre cœur et dans notre vie, sans son esprit. Impossible. Il y a un voile terrible qui est mis. Et Dieu dit, voilà, je suis celui qui interprète les Écritures. Je suis le centre. Donc, il se présente ici chez Jean comme un Dieu qui est homme, c'est-à-dire à la fois un prophète, un prêtre, un roi, celui qui va purifier son Église, mais en même temps, les nations aussi, tous ceux qui l'accepteront en autorité, en Seigneur. Il a ce rôle extraordinaire de révélation, de purification. On l'a déjà vu un peu l'Apocalypse dernièrement, mais c'est le livre de la révélation de Jésus. C'est vraiment ça, le cœur qu'il faut retenir. Et en tant que prophète, Jésus a révélé à Jean comment l'histoire se terminera. Comment elle se terminera. Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir. Et l'Apocalypse est absolument impossible à comprendre sans l'ancrage dans l'Ancien Testament. Si on ne connaît pas Daniel, on ne peut rien comprendre à l'Apocalypse. On peut faire des fausses interprétations. Donc, Daniel, Jésus cite le livre de Daniel. Et ça, c'est extraordinaire. Il le connaît. Jésus, il est la parole de Dieu. Il la cite sans arrêt. Parfois, ce n'est pas au verset près. Mais il cite Daniel 7. Et dans Daniel 7, nous voyons tous les éléments de l'Apocalypse qui sont là. Et donc, Jésus dit, « Écris ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Alors, Jésus est ce prêtre. Et dans Apocalypse 21, c'est le parallèle avec Apocalypse 1. Il est dit, « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » La passion de Dieu, ça a toujours été de vivre avec les hommes, au milieu des hommes. Le tabernacle au début, ensuite le temple de Salomon, ensuite le Christ au milieu de nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais même la fin des temps, c'est Dieu qui vient vivre, tabernacler avec son peuple. Alors, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, Jésus, il est vraiment celui qui dépasse toutes les figures de l'Ancien Testament. Et le livre aux Hébreux, on le verra un peu, c'était vraiment pour ces Juifs qui étaient devenus chrétiens, mais qui était vraiment pas tout à fait sûr que Jésus était plus grand que Abraham, plus grand que Moïse, plus grand que tout ça. Et du coup, ils étaient happés de nouveau vers la loi. Et le livre des Hébreux, vraiment, est pour eux. Et il démontre que le Christ dépasse tout ce qu'on peut imaginer au niveau de la perception de l'Ancien Testament. Hébreux 4, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. » Il n'y en a qu'un qui a fait ça. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Voyez. Donc, Jésus se manifeste dans l'Apocalypse en tant que grand prêtre. C'est étonnant, mais plein de détails nous montrent qu'il est ce grand sacrificateur, qui était déjà comme une ombre dans l'Ancien Testament. Et alors, en tant que grand prêtre, il se manifeste avec puissance lorsqu'il soumettra tous ses ennemis. Il est assis à la plus haute position qu'aucun homme n'a atteinte. Il est Dieu. Et dans l'Apocalypse, Jésus est présenté comme celui qui préexiste à l'histoire et comme celui qui est au-delà de l'histoire. Daniel 7 nous dit ceci, verset 13, écoutez ça. « Je regardais pendant mes visions nocturnes Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il avança, s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et un peu plus loin, Daniel 7, toujours, il est dit « Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur... » Donc là, les questions de l'ennemi, hein, de nos âmes. « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont dans les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Et son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Donc cette notion, Jésus se nomme souvent dans les Écritures le Fils de l'homme. Et ça, cette expression, on la voit dans Jean, on la voit surtout dans la bouche de Jésus lui-même. Et il a emprunté cette expression à Daniel, parce qu'il veut montrer qu'il est celui que Daniel a prophétisé. Et Daniel disait, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Alors Jésus, il a utilisé ce titre quand il était avec ses disciples, par exemple. On voit ça dans Matthieu 24. Hein, il dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance, avec gloire. On voit dans Matthieu 25, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. C'est toujours Daniel qui est derrière. C'est le livre de Daniel qui est derrière. Et Jésus puise dans ce livre qui parlait de lui. Tout parle de lui dans les Écritures. Donc Jésus, là, il a privilégié Daniel, le prophète. Mais il aurait pu prendre n'importe quel autre passage. Tout parle de lui. C'est ça qui est extraordinaire. Les pères de l'Église, toute la tradition de l'Église a interprété les Écritures en voyant Jésus partout. Et Jésus lui-même l'a fait. Il a dit, voilà, c'est moi, ce Fils de l'homme. Donc Matthieu 25, lorsqu'il verra le Fils de l'homme, viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, la seconde venue de Jésus, c'est le thème majeur donc de l'Apocalypse. Il est venu pour amener un plein salut aux nations. Et dans Apocalypse 1, on a vu, il vient sur les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. L'expression « fils de l'homme », c'est vraiment une expression qui souligne le côté humain de Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Il est le Dieu-homme. Personne n'a été comme lui. Le scandale pour les Juifs, c'est qu'un Dieu puisse se faire homme. Ça, c'était le scandale. C'était insupportable. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas s'abaisser. Mais le message de Dieu, depuis l'origine des temps, le seul plan de Dieu, il n'y en avait qu'un, c'était d'envoyer l'agneau, le Fils, semblable aux hommes, pour les sauver. C'était dès le départ. Et ne pas reconnaître en Jésus cet agneau prophétisé, ce roi prophétisé depuis tous les prophètes, c'est vraiment quelque chose qui a aveuglé une part du peuple de Dieu. Mais le voile sera déchiré. Donc le Fils de l'homme, expression qui parle du Dieu homme. Le Fils de l'homme donc viendra de façon surnaturelle sur les nuées. Et c'est comme quand Jésus utilise ce titre, c'est comme s'il disait « Je suis Dieu ». Je suis à la fois Dieu. Mon Père m'a choisi pour être roi sur la terre. Et en même temps, il proclame, je suis en même temps au milieu de vous. Je suis parmi vous. Je suis l'un d'entre vous. Voyez, dans Hébreux 4, alors Hébreux, vous prenez Hébreux 1, Hébreux 2, Hébreux 3, Hébreux 4. Chaque fois, c'est la supériorité du Christ sur tout. Alors d'abord, sur les anges, Hébreux 1. Ensuite, supériorité de Jésus sur Moïse. Ensuite, supériorité de Jésus sur les grands prêtres, puisqu'il y a un seul grand prêtre pour l'éternité, Jésus. Supérieur sur le ministère d'Aaron, comparable à Melchisédek, qui n'a pas connu la mort. Donc, toujours, il est élevé, élevé, élevé. Médiateur d'une nouvelle alliance, d'une plus grande, d'une plus belle alliance. Et je lis ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, ce terme nous parle de Jésus qui, quand il parle du Fils de l'homme, il essaye un peu de cacher quelque part de sa gloire éternelle en tant que Dieu. Et vous savez, le contexte, lorsqu'il est venu sur terre, il y avait ces Juifs, les Zélotes, qui attendaient le Messie. Et le Messie, pour eux, c'est celui qui allait chasser les Romains. C'était celui qui allait employer la force physique. Et donc, pour éviter la confusion, Jésus fait attention à ne pas se présenter avec des termes qui prêteraient trop à confusion, surtout par rapport à ces Zélotes. Et il insiste sur la notion de fils de l'homme qui est plus proche de l'humanité. Donc, on voit, fils de l'homme, Jésus... il a utilisé ce terme, par exemple, devant le Sanhédrin, à son procès. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas trompés. Hein. Ils ont tout de suite vu la référence. Parce que quand Jésus a dit, voilà, vous verrez le Fils de l'homme, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit ça dans Matthieu 26. Eh bien, lorsqu'il a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel, tout de suite, ils ont fait le lien. Ça y est, il se prend pour le Fils de Dieu. Et donc, simplement, Jésus, c'est étonnant, qui est dans les Écritures, c'est plus cette expression que d'autres. Donc référence à Daniel, mais surtout référence à son humanité. Voyez. Alors dans Actes 7, 56, on voit aussi Étienne, qui a une vision du Fils, et pareil, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc chaque fois, on a cette expression, les apôtres, Étienne, etc., étaient pétris des Écritures. Et donc ils avaient compris le lien, ils avaient compris tout ce qui concernait Jésus dans l'Écriture. Jésus emploie 85 fois cette expression dans le Nouveau Testament. Deux autres que lui l'ont utilisé, Jean, et puis nous avons aussi Étienne, dans Actes 7 qu'on vient de citer. Alors, Jésus a parlé de sa gloire d'avant son incarnation, de son existence, avant qu'il soit venu sur terre, comme un enfant, comme un bébé. Par exemple, Jean 17, vous connaissez. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc ça, c'est le côté d'éternité de Jésus. Avant que le monde soit, il était déjà. Jean 6, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, voyez, il était à la droite de Dieu. Jésus a utilisé ce terme pour montrer qu'il est le seul homme, en tant qu'homme, qui a l'autorité de juger l'homme. En Daniel, on voit que c'est un roi, le fils de l'homme, qui juge les nations. Donc l'expression fils d'homme, ça nous rapproche à celui qui juge avec équité. Jean 5, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné de pouvoir juger parce qu'il est Fils de l'homme. Voyez. Donc c'est vraiment cette notion, quand il se présente Fils de l'homme, c'est la notion d'un juge droit, équitable. Et alors, il a enseigné en privé ses disciples au sujet de sa seconde venue. Et ça, nous avons Matthieu 24. Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir? Jésus dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Daniel 7, le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et gloire. Voyez. Donc ça c'est vraiment toute cette racine de l'Apocalypse, les racines de l'Évangile se prennent dans tous les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Et quand il parle de Fils de l'homme, il prophétise également sur sa mort et sa résurrection. Lorsqu'il est dit, le Fils de l'homme doit être élevé hein, en mourant sur la croix pour que tous soient attirés vers lui. Jean 3, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voyez, chaque action de l'Ancien Testament, chaque domaine, chaque verset est rempli du Christ, est saturé. La Bible est saturée du Christ. Et dernièrement, vous savez, Dieu se révèle par des songes, par des visions de façon extraordinaire. Dernièrement, je lisais un mail en Iran. Il semblerait qu'il y a plus d'un million de chrétiens en église souterraine. Ils se convertissent par vision et par songe, un peu comme la Kabylie et l'Algérie. Et Dieu parle de qui il est. Vous savez, dernièrement, il y a aussi des rabbins qui ont été touché par le Fils, par Jésus. Vision, vision, conversion. Donc, il y a le Fils, il est celui qui est le centre de tout. Il est ce Fils de l'homme qui nous parle de ce juge, de celui qui revient, de celui qui règne, de celui qui a préexisté avant que le monde soit. Et il a aussi utilisé ce terme pour parler de lui-même comme étant celui que le peuple devait recevoir, devait croire pour recevoir le salut. Jean 6, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Celui qui mange de ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Alors Jean, il a eu cette révélation des sept chandeliers. Il a eu cette révélation de Jésus. Et ces chandeliers d'or nous parlent de l'Église. Nous sommes un chandelier. Est-ce que vous saviez ça? Vous êtes un chandelier. Pas vous tout seul. Mais quand on est tous ensemble, on est le chandelier. Hein? Toi tout seul, t'es une lumière. D'accord. Mais t'es pas un chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. L'Église locale est un chandelier. Je me rappelle un jour, Jeff Davidson était venu et il avait vu une vision. Il avait vu un chandelier, et vous savez, c'était de l'or qui était frappé. Il faut le frapper, l'or, il faut lui donner la forme pour en faire. Ce n'est pas des petites pièces comme ça qu'on rajoute, c'est une seule pièce. Et cette seule pièce, elle est travaillée, elle est martelée pour faire un chandelier. Donc, ce n'est pas étonnant que l'Église, parfois, soit un lieu où on est ajusté, martelé, soudé, purifié, cramé, il pourra en rajouter, hein, pour qu'il y ait vraiment ce chandelier qui fasse la lumière. Dans Zacharie, il est dit, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et vous avez le chandelier d'or qui était également dans le lieu saint, qui du tabernacle et du temple. Alors Jésus, le grand prêtre, il était vêtu comme un grand prêtre. La vision de Jean, c'est extraordinaire, c'est exactement la tenue des grands prêtres dont on a la description dans l'Exode. Il se tenait dans le temple au milieu des chandeliers et était vêtu d'une robe de prêtre, Apocalypse 1, 13. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Au milieu des chandeliers. Jésus est au milieu des chandeliers. Il y en a parfois, ils ne veulent pas de chandeliers. Je te rappelle que Jésus est au milieu des chandeliers. Et cette vision, Jésus portait une robe jusqu'aux pieds. Parallèle, Exode 28, il est dit, voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Et Ésaïe 6 a vu la même chose. Il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc ça c'est... Et Jean 12, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Jésus, il avait non seulement une robe, mais sur sa poitrine, il avait une ceinture d'or, comme le souverain sacrificateur. Et on voit aussi les sept anges qui tenaient sept coupes, Apocalypse 15, et on retrouve ça, bien sûr, dans l'Ancien Testament. L'ange qui a révélé les jugements de la fin des temps de Daniel portait également une ceinture d'or. Donc, cette ceinture d'or nous parle de l'ange qui révèle les choses. Et Jésus s'est présenté de cette manière. Daniel 10, je levais les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, etc. On retrouve cette notion de grand prêtre dans toutes les Écritures. Et la personne de Jésus, ce n'est pas seulement un prêtre, mais c'est aussi un roi et un Dieu éternel. Apocalypse 1, on l'a lu, sa tête et ses cheveux étaient comment? Blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. On prend Daniel 7, il est dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des Jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. » Donc ça, l'Ancien des Jours, c'est le Père. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Donc Jésus, la description de Jésus, il est comme le Père. Il est Dieu. D'accord ? Il est Dieu. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence. Donc la tête et les cheveux de Jésus, blancs comme la laine, c'est de façon intentionnelle que c'est la même description que l'Ancien des Jours. Parce qu'il est aussi pur, aussi blanc que son Père. Voyez. Et il se montre comme le Christ éternel, qui était préexistant. Et tous les titres de Jésus font écho aux titres donnés par le Père. Jésus est Dieu. La tête et ses cheveux, donc, blancs, pureté. Rappelle-toi, psaume 51, « Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Ésaïe 1, « Venez, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Laine, blanc, pureté. Blancheur, tout ça, c'est les attributs de Dieu qu'il nous donne à nous. Apocalypse 19, au sujet de l'agneau, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Ce fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Alors, les yeux de Jésus, c'est des flammes de feu. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de sa connaissance en particulier. Il connaît ce qui est dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'il va juger avec droiture et justice, parce qu'il voit. C'est un feu qui brûle nos barrières. Nous, on met des palissades souvent. Seigneur, ne regarde pas. Il crame nos palissades. Il crame notre cœur dur, parfois comme du fer. Le feu fait fondre le fer de nos cœurs. Ça, c'est les yeux de Jésus. Hein, le feu dans les yeux de Jésus. Apocalypse 2, écrit à l'ange de Thyatire, « Voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Apocalypse 19, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc ensuite, les pieds de Jésus. Alors les pieds de Jésus, ils étaient comme de l'airain ardent et qui purifie, qui va juger. Hein. Ézéchiel 1, c'est la même chose, écoutez ça. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Les pieds de Jésus, vous savez de quoi ça nous parle? De la capacité à recevoir l'héritage. Les pieds nous parlent, rappelez-vous Josué, toute terre que foule la plante de tes pieds, je te la donne. Les pieds, c'est l'héritage. Donc, les pieds de feu de Jésus nous parlent d'un héritage. Il prend tout. La terre lui revient, les cieux lui reviennent. Et ça, les pieds, c'est l'héritage. Alors quand Dieu te parle de tes pieds, fais attention, il parle de ton héritage. Romains 16, le Dieu de paix, 20, verset 20, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et je rappelle que les pieds du corps de Christ, c'est l'Église actuelle. D'accord ? Il y a une Église qui est déjà dans la gloire. Tous ceux qui sont morts avant nous, dans le Seigneur, sont dans la gloire. Ce n'est plus les pieds. Les pieds, c'est l'Église aujourd'hui. C'est l'Église qui est vivante aujourd'hui et qui foule cette terre. C'est les pieds de Jésus. Et Dieu nous a donné des pieds pour qu'on puisse écraser nos ennemis, ses ennemis à lui. C'est ça notre destinée, une part de notre destinée. Donc, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds parce qu'il y a un héritage pour le peuple de Dieu. La voix de Jésus, elle est comment ? Le grondement de grandes eaux, alors qu'il apparaissait à Ézéchiel comme celui qui gouvernera la terre à partir de Jérusalem. Apocalypse 5,15, sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ézéchiel, pareil, il a entendu la voix du Fils. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Et la voix de Dieu, sa voix était pareille au bruit de grandes eaux. Et plus loin, je vais lire le passage. Hein. La terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva, me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et les rois ne souilleront plus mon saint nom, et par leur prostitution et par leur cadavre de leur roi sur les hauts lieux. Donc la voix de Jésus, là c'est la voix de Dieu, Ézéchiel 43, les grandes eaux. Et on a les mêmes descriptions pour Jésus. La voix de Jésus, elle est aussi comme une trompette, comme un tonnerre, Apocalypse 1, 10, 14, verset 2. Psaume 29, écoutez ça, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Donc, là, la même description de la voix pour Dieu, elle est employée pour Jésus, pour montrer que c'est la même voix, que c'est la voix de Dieu lui-même au travers du Fils. Jésus le roi, et donc il avait dans sa main sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë. Alors, les étoiles, ça nous parle des apôtres, les étoiles. Hein, c'est les anges, c'est-à-dire les envoyés, apostolos, les envoyés de Dieu, ministère apostolique, responsable de transmettre le message que Jean avait reçu aux différentes églises. Et regardez, il est dit, il avait dans sa main droite cette étoile. Où se trouvent les apôtres ? Dans la main de Dieu. D'accord ? Dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Et la main droite, c'est la main qui gouverne. C'est la main qui est forte. Les apôtres sont dans la main droite. Les sept étoiles, ça c'est impressionnant. La main droite, c'est la place privilégiée. C'est la place de bénédiction, de protection aussi contre Satan, contre la persécution parfois. Les étoiles nous parlent, là aussi c'est Daniel qui nous dit, les étoiles nous parlent de ceux qui enseignent la justice. Pas de ceux qui enseignent tout seuls, de ceux qui enseignent la justice. Daniel 12, il est dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles. Donc il tient, Dieu tient, Jésus tient les sept étoiles dans sa main. Ceux qui enseignent, le ministère d'enseignement est tenu par Dieu, par la main droite de Dieu. Ça c'est Jésus, par la main droite de Dieu. Et il n'est pas question de Jésus aussi ici. Donc Jésus a révélé les dimensions de sa nature qui convenaient aux besoins de chaque église. Ce n'est pas le but ce matin de parler de ça, mais pour chaque église, Jésus se présente d'une façon particulière. C'était un aspect de sa nature dont l'église avait particulièrement besoin. Et il est question, vous avez tous les attributs de Apocalypse 1 qu'on a lu là, sont repris pour chacune des églises, sauf une, l'église de Laodicée. Cette église tiède, il n'est pas question des attributs de Jésus qu'on a lus ensemble dans Apocalypse 1. Mais il est question d'un attribut particulier dont on n'a pas parlé. Mais c'est celui qui dit, et cet attribut qui est absolument, Jésus se présente comme celui qui a présidé à toute la création. Et maintenant j'en viens à quelque chose qu'on a déjà dit ensemble ici. Pourquoi en Europe et dans le monde, les nations s'acharnent à ce qu'on n'enseigne pas la notion d'un Dieu créateur dans la formation de l'intelligence des générations et des générations. Parce que le plan de l'ennemi, c'est de lever une église de Laodicée, tiède, qui n'a plus conscience d'un Dieu créateur de toutes choses. Et donc, la notion d'un Dieu créateur qui revient est capitale pour enlever la tiédeur, pour enlever la fadeur. Jésus a présidé à la création. Rappelez-vous les proverbes. D'ailleurs, il s'est réjoui quand Dieu a créé la création. De la bouche de Jésus sort une épée à double tranchant. Donc là, on voit Jésus qui bataille, qui détruit ses ennemis. C'est une épée efficace. Et cette révélation du Messie a été vue par Ésaïe 11. Et on voit que le Nouveau Testament compare souvent la parole de Dieu à une épée. Éphésiens 6, Hébreux 4. Et comme par hasard, Jésus, il est la parole de Dieu. Ésaïe 11, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Jésus, ce n'est pas seulement la parole qui chatouille, ce n'est pas seulement la parole qui te fait du bien, c'est la parole qui frappe, et c'est la parole qui juge, et c'est la parole qui détruit les œuvres du diable. Ça, c'est le Jésus. Ça, c'est la dimension de Jésus aussi. Alors, vous avez aussi l'apparence de Jésus. Il est dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, comme le soleil. En fait, le soleil est la seule chose de la création qu'on ne peut pas regarder en face. Sinon, tu crames tes yeux. Il y a plus, on ne conseille pas de regarder le soleil en face. On ne peut pas. L'éclat du soleil nous parle de cela. Aucun nuage ne pouvait cacher l'intensité des rayons de ce soleil. Et cette image, elle est prise du cantique de Déborah. Et le cantique de Déborah, qu'on trouve dans Juges chapitre 5, « Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui t'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. » Donc, le soleil, Dieu, mais nous aussi qui aimons Dieu, nous sommes comme le soleil. Et donc, on voit le visage de Jésus était resplendissant comme le soleil. Rappelez-vous Moïse aussi, qui a rencontré Dieu. Il éclatait de lumière, son visage. Rappelez-vous l'épisode de la transfiguration sur la montagne dans Matthieu 13. Eh bien, on voit Jésus aussi resplendissait. Donc, ça, c'est Jésus. Il y a des événements de gloire sur la terre. Mais combien c'est plus important une fois qu'il est ressuscité. Et Jean l'a vu comme un visage qui est comme le soleil lorsqu'il brille en plein midi, en pleine force. Donc, Daniel 10, il est dit, versets 5 et 6, l'ange était ainsi décrit, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli. Le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et là maintenant, en conclusion, voyez, ça c'est Jésus. Ça c'est le Jésus de gloire. Le prophète, le roi des rois. Jésus Dieu. Jésus Seigneur de l'histoire. Jésus l'alpha, l'oméga. Et ce Jésus-là, il est descendu. Ce Jésus-là, il s'est dépouillé. Ce Jésus-là a quitté la gloire pour nous. Quelle gloire! Quand on voit toutes ces descriptions de Jésus, et Jésus qui a s'est laissé ce vêtement pour nous. Pour nous. Donc, c'est sûr, sur terre, il y avait quelque chose de caché. Il y avait quelque chose de caché. Mais ceux qui l'aiment ont vu sa gloire. Et Dieu voudrait montrer sa gloire. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, Philippiens 2, hein, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est pour ça, dans Hébreux 13, il est dit, un passage qui dit, « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le nom de Jésus, et là je parle en particulier aux chantres et aux adorateurs. Est-ce que tu connais des noms de Jésus? Je vais te faire une petite liste. Mais ça, plus on est dans l'adoration, et nous sommes tous des adorateurs, hein, mais plus on est dans l'adoration, plus on doit être ancré dans les Écritures et dans les noms de Dieu. Je vous les cite. Il est l'avocat. Je ne donne pas les références, ça serait trop long. Avocat, admirable, Père éternel, les noms de Jésus, hein, Emmanuel, Tout-Puissant, Alpha Oméga, Amen, apôtre de notre profession, victime expiatoire, auteur de vie, auteur de notre foi, auteur de notre salut, commencement et fin, bienheureux et seul souverain, pain de Dieu, pain de vie, pierre principale, pierre angulaire, souverain berger, Christ, créateur, libérateur, vie éternelle, zèle de l'éternel, la porte, fidèle, véritable, fidèle témoin, principe de la création de Dieu, le premier, le dernier, premier-né des morts, prince des rois de la terre, Dieu, bon berger, grand souverain sacrificateur, chef suprême de l'Église, héritier de toutes choses, souverain sacrificateur, saint véritable, saint et juste, espérance de la gloire, puissant sauveur, je suis, image de Dieu, roi éternel, roi d'Israël, roi des Juifs, roi des rois, agneau de Dieu, agneau sans tache, dernier Adam, la vie, lumière du monde, Lion de Juda, le vivant, la pierre vivante, Seigneur et Sauveur, Seigneur de tous, Seigneur de gloire, Seigneur des seigneurs, éternel notre justice, homme céleste, médiateur de la nouvelle alliance, Dieu puissant, étoile brillante du matin, rejeton de la postérité de David, fils unique de Dieu, grand Dieu et sauveur, notre sanctification, notre époux, notre protection, notre rédemption, notre justice, notre Pâque qui a été immolé, puissance de Dieu, précieuse pierre angulaire, prince de paix, prophète, résurrection et vie, germe juste, le rocher, rejeton de David, sauveur, fils de David, fils de Dieu, fils de l'homme, fils du Très-Haut, auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent, le seul médiateur, pierre rejetée, le vrai pain, la vraie lumière, le vrai cep, la vérité, le chemin, la sagesse, la conseillère, la parole de Dieu. Ça, mes amis, c'est Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Et Seigneur, tu es le centre de notre adoration. Tu es le centre de notre vie. Tu es le centre au milieu des chandeliers, Seigneur. Et Seigneur, au-delà de tout ce qui arrive, au-delà de toute maladie, au-delà de toute persécution, au-delà de toute difficulté, de tout vent contraire, nous confessons, tu es Dieu et nous adorons. Et comme Jean qui t'a vu et qui s'est prosterné à terre devant cette vision absolument indescriptible qu'il a essayé avec des faibles mots de décrire, nous disons, nous t'appartenons Seigneur et nous te chérissons. Et nous te disons merci pour un si grand salut. Merci de t'être abaissé jusqu'à nous, afin de nous élever à toi, Seigneur. Merci pour la position que nous avons de fils et de filles ce matin. Seigneur, reste au centre de notre vie. Et merci parce que même si on veut s'échapper, même si on veut se cacher, eh bien on te trouve. Merci, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.